Bien, bonjour à tous. C'est toujours avec beaucoup de joie que je me retrouve parmi vous. Je vois toujours des visages habituels, puis des nouveaux visages parmi la jeunesse. Là. Alors, ça fait toujours plaisir de voir des jeunes. Merci pour votre engagement dans la prière, le culte, etc. J'ai eu à cœur dans cette période de l'Avent, parce que c'est la période avant Noël. Vous savez que dimanche dernier, c'était le premier jour de l'année ecclésiale pour les croyants. Mais mon propos de cet après-midi va plutôt porter sur le Christ victorieux, non pas sur la naissance du Christ. Je pense que dans les dimanches qui suivent, vous aurez l'occasion de vous entretenir sur cette belle naissance miraculeuse. Mais moi, cet après-midi, j'aimerais plutôt vous parler, effectivement, du Christ glorifié et du Christ vainqueur, celui qui est passé avant nous sur cette terre et qui, en s'incarnant, a connu exactement les conditions qui sont les nôtres, les mêmes tentations, les mêmes difficultés, la puissance du mal qui s'est déchaînée et à laquelle il a été confronté. Et puis il en est sorti vainqueur. Et je dis cela parce que ce texte de l'Épître aux Hébreux s'adresse à des chrétiens qui ont quelques difficultés dans leur vie. Ils ont marqué un temps d'arrêt, manifestement, d'après certains versets, comme par exemple le chapitre 3, verset 12. Il y a là comme un avertissement qui est claironné. Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Donc, vous voyez, il y avait une problématique là. Et puis, un petit peu plus loin, au chapitre 6, après des exhortations extrêmement fortes qui sont adressées à ces chrétiens, au verset 9, il est dit « Quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. » Donc après un moment d'exhortation et de remise en cause un petit peu de leur comportement, de leur tiédeur spirituelle, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, sous l'inspiration du Saint-Esprit, les encourage. Et puis il rajoute « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. » Donc il y avait des chrétiens dans cette communauté qui rendaient des services aux saints, mais qui néanmoins étaient avec toutes sortes de questionnements, toutes sortes d'interrogations, et c'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux les exhorte. Et il va dans son exhortation, en dénonçant certains comportements, il va dans l'ensemble démontrer la supériorité de Jésus-Christ. Vous le savez, la pédagogie de Dieu, c'est de toujours, pour nous faire avancer, de nous faire connaître sa personne, ce qu'il a réalisé en Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ, ce qu'il a accompli, ce que nous avons en lui, sur quoi nous pouvons nous appuyer, c'est-à-dire c'est une pédagogie extrêmement positive. Toute l'Épître aux Hébreux manifeste cette supériorité de Jésus-Christ, puisque comme vous le savez, ça commence par le verset 1 du chapitre 1. « Après avoir autrefois et à de nombreuses reprises parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps a parlé par son Fils. » Donc la supériorité de Jésus-Christ par rapport aux prophètes précédents. Ensuite, c'est la supériorité dans le même chapitre de Jésus-Christ par rapport aux anges. C'est-à-dire que Jésus est au-dessus des anges, il n'y a pas de confusion à avoir au niveau de son identité, mais il est supérieur aux anges, sachant que pour le peuple juif, ce qui peut-être ne nous apparaît pas très important, mais ce qui est quand même pour le peuple juif, le rôle des anges a été excessivement important dans l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, les Saintes Écritures ne disent-elles pas que c'est par des anges que la loi a été apportée à Moïse ? Donc c'est pour ça qu'il est question de la supériorité de Jésus-Christ par rapport aux anges. Ensuite, la supériorité de Jésus-Christ par rapport à Moïse. Et puis nous arrivons, nous, à notre chapitre, à la supériorité du Seigneur Jésus-Christ par rapport au rite lévitique, c'est-à-dire par rapport à la pratique des prêtres de l'époque et du souverain sacrificateur. Il y a eu un petit peu avant l'apparition de je tuer sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek, tout un thème qui va être développé dans le chapitre 7. Mais pourquoi ? C'est pour démontrer qu'en toute chose, Jésus-Christ est supérieur à tout ce qui a pu exister. Pourquoi cela ? Pour que nous puissions vraiment, en tant que chrétiens et les correspondants de l'époque, pour qu'ils puissent vraiment appuyer leur foi et leur espérance sur la personne de Christ, sur le Messie d'Israël, sur leur Sauveur et Seigneur, sans aucun doute, sans aucune interrogation qui pourrait les affaiblir dans la profession de leur foi et la pratique de leur vie chrétienne. Le Christ, comme vous le savez, d'après ce texte, il est supérieur donc au souverain sacrificateur, à tous les prêtres de la tribu de Lévi. Et c'est vrai que pour les Juifs, le grand prêtre représentait la plus haute autorité religieuse du pays. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter ou de regarder à la télévision quand le pape, que ce soit Jean-Paul II ou Benoît XVI à l'heure actuelle, se déplace, et en particulier quand il arrive en France. Alors vous avez des gens qui, à la télévision, attendent tout de lui, des chrétiens catholiques qui attendent tout du pape. Et quelque part, dans l'ancienne alliance, le rôle du souverain sacrificateur était éminent. Et les Saintes Écritures veulent nous faire comprendre que Jésus-Christ est bien supérieur à ce souverain sacrificateur, issu de la tribu d'Aaron, pour ce qui concerne le rite lévitique. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, un ordre qui apparaît dans la Genèse, alors que Abraham revient du combat contre les rois pour délivrer Lot, et puis apparaît ce personnage qui n'a ni commencement ni fin, parce que dans l'Écriture, on ne sait pas d'où il vient, quels sont ses parents. Vous savez qu'au temps d'Esdras et de Néhémie, des prétendants au sacerdoce lévitique ont été refusés parce qu'ils ne pouvaient pas démontrer, prouver leur identité. Et on ne pouvait pas être souverain sacrificateur ou sacrificateur si on ne pouvait pas démontrer son identité. Et comme ils avaient perdu les documents concernant leur identité, Esdras et Néhémie disent non, vous ne pouvez pas accéder au sacerdoce. Donc c'est une chose extrêmement importante pour le peuple juif. Et Dieu va démontrer que oui, il y a un ordre différent, que l'ordre établi selon la loi. Il y a l'ordre de Melchisédek. C'est un petit peu comme la justification par la foi qui est arrivée avant la circoncision. Donc c'est la foi qui prime sur les œuvres. Et c'est la sacrificature selon Melchisédek qui prime sur la sacrificature ordonnée par Dieu au travers de Moïse dans la loi. Et Jésus-Christ est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire qu'il fait appel à quelque chose d'antérieur à la loi, on pourrait dire quelque chose d'éternel. Et puis la situation de Jésus-Christ en dehors de son identité, bien entendu, en tant que Dieu fait homme, fils unique du Dieu vivant, souverain sacrificateur par excellence, c'est sa position. Un souverain sacrificateur, il pénétrait une seule fois par an, c'était à la fameuse fête du Yom Kippour, hein, le grand pardon, une seule fois par an dans le lieu très saint. On ne pénétrait jamais dans le lieu très saint, sauf une fois par an. Et en plus, il avait accroché au bas de sa robe, de son vêtement sacerdotal, des grelots qui tintaient, évidemment, quand il se déplaçait pour faire le service. Et pourquoi cela ? Ben parce que les Juifs se disaient, on peut très bien pénétrer en présence de Dieu et ne pas en ressortir vivant. Parce qu'ils connaissaient le Dieu d'Israël qui les avait fait sortir d'Égypte. Et donc, cet exode avait été transmise par la voie orale avant d'être écrite dans les Saintes Écritures. Et donc, ils savaient que ce Dieu était un Dieu grand et redoutable et qu'on ne pouvait pas s'approcher de Dieu comme ça sans risquer d'y perdre la vie. C'est pour cela que bien des siècles après, Uzza, serviteur au temps du roi David, croyant bien faire, parce que son maître, le roi David, avait décidé de transporter l'Arche de l'Alliance depuis le pays des Philistins sur un char tiré par des bœufs, au lieu de la faire transporter, comme la loi l'indiquait, par les Lévites avec devant eux des chantres et toute la musique et tout un déroulement, on ne pouvait pas se permettre de déplacer l'arche de Dieu n'importe comment. David, dans sa spontanéité, dans sa joie de retrouver l'arche de l'Éternel, il la pose simplement sur un char tiré par des bœufs, et à un moment donné, il y a un chaos, et puis Uzza tend la main pour éviter que l'arche ne touche le sol, enfin ne culbute, ne quitte la plateforme de ce char, et il est foudroyé sur place. Donc il savait très bien, je m'excuse, il y a aussi l'exemple qui me vient à l'esprit des deux fils d'Aaron, qui s'étaient permis d'amener du feu étranger, et donc ils sont eux aussi foudroyés sur place. Donc Israël avait conscience que ce Dieu-là, c'était le Dieu favorable à Israël, mais en même temps on ne pouvait pas s'approcher n'importe comment et faire n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il avait ses clochettes, et on se disait, il est toujours en vie, jusqu'à ce qu'il ressorte du lieu très saint pour apparaître dans le lieu saint et ensuite sur le parvis du temple. Et là, tout le monde poussait un soupir de soulagement. Pourquoi ? Parce que le grand pardon était accepté par Dieu. Souvent, un sacrificateur ressortait vivant. On pouvait continuer la cérémonie et mettre la main sur les boucs et en égorger un, puis chasser l'autre dans le désert. Parce que sinon, ça voulait dire que si le souverain sacrificateur était mort, il n'y avait pas de grand pardon. Il n'y avait pas de pardon du tout. Alors là, ça aurait été terrible. Mais ça, c'était une fois par an. Et le souverain sacrificateur, c'était un mortel. Donc, il fallait en changer. Il y avait la succession dans la famille d'Aaron. Alors que pour Jésus-Christ, il est éternel. Il est en présence du Dieu trois fois saint. Il est le Fils unique du Dieu vivant qui est présentement et depuis son ascension, eh bien, à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut faire comprendre à ses correspondants. Le Christ est toujours à la droite de Dieu, intercédant pour nous. Il est toujours disponible à l'écoute de nos prières. Celui qui a vaincu la mort et le péché, eh bien, est à l'heure actuelle présent en présence de la sainteté de Dieu son Père, et il intercède pour chacun d'entre nous. C'est pour cela que le texte dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur ». C'est un privilège, quand on étudie le texte pratiquement mot à mot, c'est un privilège, nous avons. Il est notre propriété, notre possession. Un petit peu comme l'apôtre Paul qui dit dans l'Épître aux Romains « Christ nous appartient, Christ est à vous, vous êtes à Christ. Vous êtes héritier de Dieu, co-héritier de Christ ». Vous voyez, la position que nous avons en tant que chrétiens, le Seigneur est notre souverain sacrificateur, c'est personnel. En tant que chrétiens, chacun d'entre nous, nous pouvons, dans notre vie de tous les jours, être conscients du fait que notre souverain sacrificateur, le nôtre, il est présent à la droite de Dieu, il nous regarde, il a ses regards sur nous, et c'est ainsi que nous pouvons avancer avec confiance. Les chrétiens de l'époque de l'Épître aux Hébreux avaient perdu de vue ces grandes vérités et ils se posaient des questions, somme toute, qu'on pourrait qualifier de légitimes, dans le sens que probablement on se les pose toutes, enfin en tous les cas, nous les Occidentaux, vous, je ne sais, mais nous les Occidentaux, cartésiens, tout le temps en train de réfléchir à des tas de choses, eh bien, des fois, on se dit, mais à quoi ça sert de servir Dieu ? À quoi ça sert de vivre pour Dieu ? On fait des tas de choses que les autres ne font pas. La vie marche mieux pour les autres que pour nous. Parfois, ça arrive. Pourquoi ? Parce qu'on perd de vue qui nous servons, à qui nous appartenons, et où est notre Sauveur et Seigneur. Et c'est donc dans ce sens que l'auteur de l'Épître va exhorter les chrétiens à reconsidérer, comme c'est dit dans le texte un peu plus loin, considérer le chef, considérez Jésus, le chef et le consommateur de la foi, ça c'est le chapitre 12. Hein. Donc nous sommes amenés à considérer qui est notre Sauveur, à quel endroit il se trouve et ce qu'il fait, et évidemment qui il est. Et c'est pour cela qu'au chapitre 8 de l'Épître aux Hébreux, verset 1, il est dit le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain, sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Donc voilà encore une supériorité, c'est que le Christ a pénétré dans le tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme. C'est donc encore un tabernacle supérieur, la présence même dans les cieux de notre Sauveur et Seigneur en présence du Dieu d'Israël. Et c'est pour cela qu'il leur dit « Demeurez fermes dans la foi que nous professons ». Il leur dit, le Christ qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, « Demeurons fermes dans la foi que nous professons ». Nous organisons pour le mois de juillet 2010 une grande campagne d'évangélisation dans l'Est parisien. On attend, comme je vous l'ai déjà dit, je crois, 250-300 chrétiens, une centaine du Québec, certains vont venir de Belgique, d'autres du reste de la France. On est en train d'organiser toute cette affaire. Le Seigneur ouvre les portes d'une manière formidable pour des locations de salles, oserais-je dire même pas des locations, des dons qu'on nous offre gratuitement certaines salles. À ce jour, après un an et demi de préparation, on n'a pas dépensé ça en centimes d'euros et on a des tas de choses qui nous sont offertes. Et bon, les dépenses vont arriver, mais franchement, c'est extraordinaire de voir. On est parti avec un budget de 0 euro, 0 centime, et à ce jour, on a dépensé 0 euro, 0 centime, mais on a plein de choses avec des courriers officiels et des lieux d'hébergement, de réunions, etc. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Oui, parce que en discutant avec des jeunes et des moins jeunes, il y en a qui m'ont dit, mais aujourd'hui, parler de Jésus, tout ça, mais je crois qu'ils ont perdu de vue, quoi. Ils ont perdu de vue quel est le Sauveur et le Seigneur que nous avons, quoi. Et alors, on les entraîne pour faire l'évangélisation en préparation, dans 7 mois, là, ça va nous arriver, la campagne, hein. Puis alors, ils sont là, hésitants, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette génération? Qu'est-ce que c'est que ceux-là, ces jeunes-là, mais qu'est-ce qu'ils vivent là? Je parle des jeunes français de souche, hein. Je ne parle pas de vous, hein, mes frères et sœurs en Christ issus du Vietnam. Alors je leur dis, mais qu'est-ce que vous, mais vous, qui est Christ pour vous? Alors ils sont là, mais ouais, qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais pas s'ils font, je ne sais pas s'ils lisent leur Bible, je ne sais pas ce qu'ils font dans le fond. Et alors on les entraîne et puis ils découvrent la puissance du Seigneur et comment le Seigneur peut les utiliser. Ben c'était ça nos chrétiens hébreux, là, donc des juifs convertis à Christ qui avaient perdu de vue alors le cœur de leur foi. Et c'est pour ça que l'apôtre, l'auteur de l'Épître, leur dit, mais tenez ferme, vous n'avez pas placé votre confiance en n'importe qui. Tenez ferme, il est vivant dans les cieux, quoi. Et c'est le Dieu Tout-Puissant. Alors c'est un appel à la fermeté, à la persévérance, bien entendu. Et le mot qui est utilisé dans l'Épître aux Hébreux exprime le fait de tenir ferme à quelque chose ou à quelqu'un et de lui rester étroitement associé. Alors je pense que ceux qui sont amoureux, ils doivent comprendre plus vite que les autres, parce qu'évidemment quand on est amoureux, on tient à la personne et on va être tout gentil, tout doux et on va tout faire pour lui plaire. Et c'est parfois après que ça se complique, une fois qu'on a pu l'épouser, que d'un seul coup l'autre se dit, oh là, mais qu'est-ce qui se passe, c'est pas celui-là que j'avais épousé, t'étais beaucoup plus gentil avant. Alors, mais cette petite illustration simplement pour faire comprendre l'attachement à Christ. Quand on aime quelque chose ou quelqu'un, on y fait très attention. J'ai des enfants, j'ai remarqué quand je leur donnais des choses, ils sont contents, enfin ils sont des adultes, hein. Ils sont contents, mais des fois je dis, mais vous faites même pas attention à ce qu'on vous a donné, parce que ça traîne, parce que je ne sais pas quoi. Ben oui, ils n'ont rien payé, vous comprenez? Alors maintenant, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, chérie, on arrête de leur donner, il va falloir qu'ils fassent quelque chose pour l'avoir, quoi. Et ben quand ils sont obligés de faire quelque chose pour l'avoir, ils sont beaucoup plus attentifs au bien, hein, parce qu'ils ont donné quelque chose d'eux-mêmes, et là, ils se disent, attention, ça m'a coûté. Oui, on n'a pas toujours conscience de la valeur des choses ni des êtres avec lesquels nous sommes. Mais quand on en a conscience, qu'est-ce qu'on peut être attaché aux choses et aux êtres que l'on aime? Et donc c'est dans ce sens-là que l'apôtre nous dit, mais demeurez ferme dans cette foi. Et donc il faut lui rester étroitement associé. Bah, pourquoi cet appel, dans le fond, comme je vous le disais, mais pour compléter l'explication? Parce que les croyants, ils avaient besoin de savoir que leur Seigneur leur offrait toutes les ressources dont ils avaient besoin. Vous savez, je crois qu'une des difficultés des chrétiens, c'est que face à la vie de tous les jours et à certaines situations dans la vie de tous les jours, ils oublient que c'est le Seigneur qui a les ressources. Alors ils essayent de trouver en eux-mêmes les solutions. Ils essayent de trouver en eux-mêmes le moyen de se sortir, de réaliser ceci ou cela, au lieu simplement de remettre entre les mains du Seigneur leur avenir, et en comptant sur lui. Et je vous l'ai dit, et je vous le répète, et je vous le répéterai encore si vous me réinvitez, le christianisme, la vie chrétienne, c'est l'histoire de fou. C'est qu'on reçoit tout du Seigneur, et parce qu'on n'a rien en nous-mêmes, on lui demande, il nous le donne, et du coup on avance avec lui, et il nous rend participants à ce qu'il a lui-même initié. Alors, souvenons-nous, c'est le Seigneur qui détient tout ce dont nous avons besoin. Je m'excuse, mais à quelle heure dois-je m'arrêter? J'ai oublié. Écart 20, ok. Bon. Et puis ensuite arrive le verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » Dans la psychologie, c'est ce qu'on appelle l'identification. C'est intéressant parce que, après avoir manifesté la supériorité de Christ depuis le chapitre 1, comme je vous le disais tout à l'heure, jusqu'à notre chapitre 4, là, il y a une supériorité du Christ qui pourrait nous paraître tellement éloignée de nous, tellement sainte, divine, qu'on se dit, bon, ok, c'est le Seigneur, quoi. Mais ça maintient une espèce d'espace, ça pourrait maintenir une sorte d'espace, ou un espace intellectuel tout du moins, entre lui et nous. Et voilà que d'un seul coup, les propos sous l'inspiration du Saint-Esprit de l'auteur de l'Épître basculent dans une intimité, une identification avec chacun d'entre nous. Et il dit, ce souverain sacrificateur qui pourrait être tellement écrasant de sainteté et de supériorité divine, il a connu les mêmes choses que chacun d'entre nous. Il s'est lui identifié à nous. Alors identifiez-vous à lui, c'est-à-dire ne pensez pas qu'il est à des années-lumière de vous et qu'il est incapable de comprendre vos difficultés. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. En toutes choses. Si on n'a pas le temps, mais si on méditait sur le toutes choses, on verrait combien le péché a agressé le Seigneur. La tentation a été lâchée par la puissance maléfique sur le Seigneur pour le faire chuter. Toute tentation, toutes celles que nous connaissons, vous et moi, enfin peut-être plus moi que vous, parce que je me connais mieux que je ne vous connais, le Seigneur les a connues. Toutes les choses les plus invraisemblables qui peuvent jaillir de mon cœur et de mon esprit, le Seigneur y a été tenté, confronté. C'est extraordinaire d'avoir un tel sauveur, un tel Dieu qui a participé à notre nature humaine, mais qui a aussi participé à la lutte contre le mal et contre le péché. Et vous savez, s'il y en a un qui connaît la puissance du mal dans la totalité de sa force, c'est le Christ. Vous et moi, nous résistons à la tentation jusqu'à un certain point. Et quand on a résisté, qu'on est sorti vainqueur, on ne connaît pas encore la puissance du mal. On n'en connaît qu'un petit pourcentage. Le Christ, lui, a été jusqu'à l'extrême limite, le combat, sans merci face au mal. Et c'est pour cela que dans le jardin de Gethsémané, sa transpiration s'est transformée en grumeaux de sang. Et là, c'est le combat le plus titanesque contre le mal. Il allait, il le savait, notre Seigneur Jésus-Christ, il allait être fait péché pour nous. Il allait devenir péché. On a intellectuellement même du mal à imaginer ça. Et alors, il a combattu. Le déchaînement des puissances sataniques est intervenu, entre autres, à ce moment-là. Et ce qui est formidable, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas sorti de ce combat. Premièrement, il n'a jamais été vaincu, il n'a jamais commis de péché, c'est extraordinaire. Mais en plus de ça, cette supériorité dans le combat ne l'a pas rendu supérieur dans le sens de hautain, méprisant, distant. Vous savez, il y a des gens, quand vous regardez un petit peu dans le milieu religieux, voire même parfois, hélas, dans nos milieux évangéliques, il y a des gens qui vous font sentir qu'ils sont quelque chose d'un peu mieux que vous. Ils ont une façon de vous enseigner qui fait que, il y a, oserais-je dire, comme une condescendance. Mais le Seigneur, c'est pas ça. S'il y en a un qui pourrait être méprisant et condescendant, c'est celui qui a vaincu et qui a tout remporté. Mais au contraire, ça le rend compatissant. Et moi, c'est ce que je trouve bouleversant dans notre Dieu, dans la personne de notre Dieu, du seul Dieu vivant et vrai, c'est cette pureté, cet absolu dans tous les domaines, jusque dans le relationnel avec chacun d'entre nous. Sans jamais perdre une once de sa sainteté, Dieu se rend présent. Le terme grec, c'est il y a une empathie, une sympathie. Il y a certains traducteurs qui ont traduit ces mots grecs par la sympathie. C'est extraordinaire d'avoir un tel chef qui a tout vaincu, tout remporté, qui est au-dessus de tout, au point que dans le livre de l'Apocalypse, il est question qu'il nous fasse asseoir avec lui sur le trône de l'agneau. C'est exactement une image de Dieu où il partage l'ensemble de sa nature, de sa gloire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et pour nous aujourd'hui, enfermés dans nos corps mortels, n'oublions pas et gardons confiance dans la personne du Christ. Voilà le Sauveur et le Seigneur qui est le nôtre. Et partons chaque jour avec présent dans nos cœurs la réalité de sa personne, de sa supériorité, de son amour. Et c'est pour ça qu'il dit, pour terminer, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Amen.